Seigneur, alors que nous nous accueillons, nous continuons de nous accueillir les uns les autres, nous accueillons sur cette scène Corinne. Te remercions pour qui elle est et je te demande de la renouveler, de la visiter, qu'elle soit ta porte-parole ce matin, s'il te plaît. Et que nous ayons une bonne attitude, puisqu'on parle d'attitude. On sait qu'il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire que ce n'est pas si évident. Alors Seigneur, viens nous désencombrer, viens nous toucher à l'intérieur pour que nous puissions réceptionner ce qui nous sera enseigné ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tout le monde. Alors dans la continuité du week-end d'église, on a décidé de faire une série sur les dons pour continuer le thème. Et le thème qui m'a été attribué, comme Roland l'a dit, c'est nos attitudes face aux dons. Et j'avoue que je trouve ce thème intéressant. Parce que la première démarche, celle de découvrir nos dons, elle nous est assez naturelle. Hein, ça éveille notre curiosité, ça peut être enrichissant pour nous, pour peut-être bénéficier des regards croisés sur nos ressources, sur nos dons, sur nos capacités. Donc, c'est quelque chose qui est assez stimulant. Mais il me semble que notre attitude face à ces dons-là, elle est cruciale. Elle est vraiment importante. J'ai des dons, tant mieux. Je peux m'en réjouir. Je peux me sentir aussi aimée de Dieu, hein, comme quelqu'un d'unique. Et puis après, ensuite, qu'est-ce que je fais de tout ça, une fois que j'ai compris ce que Dieu m'a donné? Alors quand je pense à cette thématique, je suis interpellée par la parabole des talents. C'est une parabole qui me travaille depuis des années. Des fois, elle est appelée aussi l'histoire des trois serviteurs. Alors je vous invite à la lire, elle est dans ma... Enfin, je l'ai choisi dans Matthieu 25, j'ai pris ces 14 à 30, et puis j'ai pris, j'ai pris la vieille Bible de Michel, j'avais presque la même à son... C'était notre première Bible, on va dire. Hein. Donc je lis dans la seconde, dans la colombe. Matthieu... Chut. Matthieu 25, verset 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Je n'ai pas coupé le dernier verset, parce qu'il fait partie de la parabole. Alors pour resituer cette parabole dans son contexte, Jésus, il est tout à la fin de son ministère. Il est en train de monter à Jérusalem où il sera arrêté, jugé et crucifié. Et dans le texte parallèle de Luc, c'est dit clairement que les gens pensaient qu'il amenait le royaume, que c'était le moment. Et un des buts de cette parabole, c'est de dire, ben non, c'est pas maintenant, vous n'allez pas entrer dans le repos maintenant. Il y a clairement le maître qui part. Je pars, il se passera quelque chose, mais ce n'est pas le repos pour vous, et je reviendrai. Et il confie ses richesses à ses serviteurs. Donc, ses serviteurs, ils ont une tâche à faire en attendant le retour. Vous avez peut-être remarqué que c'est de l'argent. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les talents... C'est des pièces d'or ou d'argent. Et ça avait une très, très grande valeur. Ça valait à peu près 10 000 jours de travail. Ça en fait un paquet. J'ai calculé que ça fait entre 20 et 27 ans de travail. Ça dépend peut-être des différents calculs. Mais enfin, c'est une grosse somme. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que Jésus veut parler d'argent, ici, dans ce texte? Est-ce qu'on peut étendre la compréhension du texte à d'autres choses, à tout ce qu'on a, finalement, pas seulement comme ressources, pas seulement notre argent, mais tout ce qu'on a, notre temps, nos capacités, nos dons? Est-ce qu'on trahit le texte en faisant ça? Parce que c'est le mot « talent » qui est en français. C'est d'ailleurs peut-être pas pour rien qu'on parle de talent pour parler autre chose que de l'argent chez nous. Ça vient de ce texte. Donc, est-ce qu'on trahit le texte? Est-ce qu'on trahit ce que Jésus a voulu dire? Et je crois pas. Donc, j'ai été regarder un petit peu le contexte pour creuser. Pour comprendre ce que Jésus veut dire, si on regarde juste avant, on a la parabole des 10 vierges qui se préparent en attendant le retour de l'époux. Il y a celles qui dorment et puis celles qui ont prévu le retour avec cette huile. Et puis le texte qui est juste après, c'est celui du jugement dernier avec ces fameux textes, ces fameuses paroles « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger ». J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Et il finit en disant, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. On est dans une logique d'action et clairement pas que d'argent. Il y a autre chose. Et comment dire ? C'est vraiment le royaume de Dieu, l'action au service du royaume de Dieu qui est la thématique de cette parabole. Qu'est-ce qu'on fait en attendant le retour du Christ avec ce que Dieu nous a donné? Alors maintenant qu'on a posé ça, on peut regarder l'attitude de ces 3 serviteurs. Les premiers, celui qui a 5 talents, il part tout de suite. Et moi, ça m'a marqué cet adverbe tout de suite ou aussitôt. C'est tac-tac. Et j'aime bien l'empressement, l'enthousiasme, l'élan, l'énergie qu'il y a dans cette action de ce serviteur. Il se met en route pour faire fructifier ce qu'il a reçu. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez retenu, mais dans ce texte, clairement, c'est dit qu'on est des serviteurs. Serviteurs du maître. Alors, il y a le mot maître qui revient souvent, mais nous, du coup, on est des serviteurs. Donc, ce qui nous est confié, ce n'est pas d'abord pour notre épanouissement personnel. Ce n'est pas d'abord pour nous, mais c'est vraiment pour s'occuper des affaires du maître. Les serviteurs ont la responsabilité d'agir dans l'intérêt du maître en son absence, en attendant qu'il revienne, pour étendre aussi son royaume. Et ce qui nous est donné par Dieu, eh ben, ça n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour Dieu, pour les autres. Et parfois, on a besoin un peu de se décentrer de nous-mêmes. On vit dans une société où des fois, on a tendance à penser beaucoup à nous, hein, individus, se décentrer un peu de nous-mêmes pour avoir une perspective plus large, beaucoup plus large, et voir un peu comme Dieu voit les choses. Alors la deuxième chose, je l'ai déjà dite, hein, c'est qu'il se met tout de suite à la tâche, ce serviteur. Il est plein d'enthousiasme, plein de zèle, et il ne s'endort pas sur ses lauriers, mais il se met en route. Et moi, j'admire cette énergie qui nous est décrite là. Et puis, troisièmement, ce qu'il fait, c'est pour faire fructifier ce qu'il a reçu. Donc, il ne se contente pas de l'utiliser, mais il essaie de le rendre plus performant, de le faire grandir. Et je crois qu'on a cette responsabilité en tant que gestionnaire du royaume, hein, d'essayer de faire grandir, de faire fructifier, de se perfectionner. Alors, je vais un petit peu mouiller en donnant un exemple personnel. Ben, par exemple, moi, j'ai à cœur depuis longtemps tout ce qui est de l'enseignement. Alors, j'aime creuser, j'aime comprendre et j'aime transmettre. Que ce soit aux enfants ou aux adultes, c'est quelque chose que j'aime faire. Alors, comment ça s'est concrétisé dans ma vie? Ben, j'ai fait une formation d'enseignante. Mais je ne me suis pas arrêtée là. Hein. Après coup, j'ai fait d'autres formations en cours d'emploi, etc. Ça m'a été utile pour mon travail, bien sûr, mais aussi à l'église. Parce qu'après, je me suis mis à enseigner pour essayer d'avoir des outils, pour essayer de faire mieux, de corriger ce que je ne fais pas bien, etc. Bah, dans mon exemple, vous voyez bien que la formation, c'est une des façons de faire fructifier. Hein. Je pense que ça l'est, mais ce n'est pas la seule. Faire fructifier, ça peut être aussi d'être en action, d'essayer de se perfectionner, que ce soit par une formation ou par autre chose, mais essayer de faire mieux. Je pense que c'est une de ces... ce que ça veut dire, faire fructifier. Alors, si on revient à notre texte, le deuxième serviteur, eh ben, il fait comme le premier. Alors, il a deux talents, il en gagne deux. Et le troisième serviteur, alors celui-ci, c'est bien différent. Si on regarde son attitude, il va enterrer le talent. Il ne fait rien finalement de ce talent. Hein. Il l'enterre, il le cache. Et puis, il attend. Et on peut se demander quelle est sa motivation, pourquoi il fait ça. Alors lui, quand le maître vient, il s'explique en disant qu'il a eu peur. Et puis, on peut se demander de quoi il a eu peur. Si c'est son sentiment qui l'a poussé à agir comme ça, de quoi il a eu peur? Ben, je pense qu'il a eu peur du maître, déjà. Et qu'il a eu une vision complètement déformée de ce maître. Si on regarde ce qu'il dit, il décrit le maître comme quelqu'un de dur et qui profite du travail des autres. il l'accuse en fait d'exploiter ses serviteurs. Il accuse le maître de moissonner là où il n'a pas semé. Ça, c'est lui qui le dit, hein. c'est pas le maître, c'est lui. Et si on observe un peu le texte, eh ben, en fait, le maître, il fait juste l'inverse. C'est pas vrai ce que dit ce serviteur. Hein. Il distribue ses biens. Et quand il revient, il ne reprend pas les biens. Il se réjouit avec les deux premiers serviteurs de ce qu'ils ont gagné, mais il ne les reprend pas, hein. Il les garde. On dit toujours que le premier serviteur en a 10 et que le deuxième en a 4. On est d'accord. Il ne les a pas repris, donc ce n'est pas vrai qu'il vient exploiter ses serviteurs. Mais ben, ce serviteur, il croit dur comme faire ce qu'il dit. Il reste bloqué un peu dans sa théologie, dans sa vision de la vie, et il n'en bouge pas. Du coup, il se pourrit la vie lui-même, hein, et il gâche son talent. Et finalement, s'il en avait eu deux ou cinq, ça aurait été pareil. Hein, il les aurait quand même gâchés. Ce qui est sûr, c'est que ben, cette conception d'avoir peur de Dieu, peur du maître, puisque c'est bien Dieu le maître, eh bien, elle est très... C'est une catastrophe, en fait, d'avoir ça, hein, d'avoir peur de Dieu. Parce que du coup, on reste bloqué, on ne peut pas évoluer. Il reste sur la défensive, il ne peut rien recevoir du maître. Il ne peut pas évoluer, puisqu'il en a peur. Hein. Et comme c'est le maître, comme c'est Dieu qui est la source de la vie, eh bien, elle est source de lumière, ben, il s'en coupe, du coup. Si je m'approche de Dieu, même si j'ai une fausse conception de Dieu ou de la vie, je peux évoluer, je peux apprendre. Dieu peut me montrer des choses. Mais si je me méfie de Dieu, ça ne peut pas passer. Hein. Du coup, je me ferme et je ne suis pas du tout à l'écoute. Et comme c'est Dieu la source de la vie, eh ben, il faut s'approcher de lui, hein, pour s'approcher de la vie. Le troisième serviteur, on parlait de peur, hein. Peur du maître, mais peut-être qu'il y a aussi une peur vis-à-vis de lui-même, peut-être un manque de confiance en lui-même. Il se dit qu'il ne va pas y arriver, hein, que de toute façon, ce n'est même pas la peine d'essayer, parce qu'il ne va pas y arriver. Donc, je cache, je ne fais rien, hein, parce que je ne vais pas y arriver. Ça s'appelle la stratégie de l'évitement. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes et pour éviter de montrer aux gens qui pensent, enfin, puisqu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables, pour éviter que les autres voient qu'ils ne sont pas capables, pour se protéger eux-mêmes, eh ben, ils vont trouver des excuses pour ne pas faire, pour biaiser. Pour éviter d'échouer. Et puis c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'invente des excuses, hein, qu'il accuse, qu'il... Ouais. Et puis ben c'est dommage parce que finalement le maître, il lui a donné selon sa compétence ce qu'il lui a donné sa chance. Il lui faisait confiance. Parce que je vous rappelle qu'un talent, c'est quand même beaucoup. C'est pas, on lui dit, oh le pauvre, il n'a qu'un talent, les autres en ont eu plus. Ouais, mais c'est beaucoup. C'était quand même une grosse marque de confiance de recevoir autant. On voit les premiers serviteurs qui sont vraiment dans une logique du don, de la générosité, et puis le don devient fécond pour eux parce qu'ils l'accueillent avec simplicité. Et puis le dernier serviteur qui est plus dans une logique du devoir imposé, de la dette aussi, du donnant-donnant, de la menace et puis de la peur. Et tout ça, eh ben, ça lui pourrit la vie, les relations. Et ça affaiblit son courage d'être. Bon, à la fin du texte, le maître, il le traite de fainéant. Il lui dit, t'es un mauvais serviteur et t'es fainéant. Donc c'est bien ça, hein, c'est qu'il s'est trouvé des excuses pour rien faire. il y avait quand même une part de fainéantise. C'est vrai que moi, dans ma vie, ça m'est arrivé de me laisser interpeller par ce texte, de me demander, puis moi, qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reçu? Est-ce que je l'enterre? Est-ce que je me trouve des excuses parce que j'ai pas tellement envie de me fatiguer? Ou est-ce que j'en fais quelque chose, je fais fructifier? Et à certains moments dans ma vie, ça m'a poussée à m'engager, à me dire, ben, c'est pour ça que j'ai commencé l'enseignement des enfants dans l'église aussi. Hein, c'est en me disant, ben, là, je suis en train d'enterrer quelque chose. Bon, j'avais aussi les enfants petits, il y a aussi des stades dans la vie, on a plus ou moins de temps, mais ça m'a poussée à me dire, ben oui, je ne veux pas être celui qui cache ou celle qui cache et qui est fainéante, mais je veux me mettre en route et faire quelque chose avec ce que j'ai reçu. Le mettre aussi au service des uns des autres, enfin, des autres, voilà, et de Dieu, bien sûr. Tout ça pour dire qu'on peut tous être à un moment donné ce serviteur-là. Hein. C'est peut-être pas toute notre vie qu'on est figé dans un modèle ou un fonctionnement. J'ai pensé aussi à d'autres textes. Hein. Je voulais vous reparler du texte de Deutéronome 6,5 qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Jésus, il ajoute « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pour moi, ces deux commandements, c'est vraiment... Enfin, pour moi, non, c'est pas pour moi. Hein. C'est les cœurs de la loi. C'est le cœur de la loi. C'est des commandements qui nous mettent en route. Et dans Deutéronome, ça me marque, comme c'est dit, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et dans Deutéronome, il ajoute toute ta force. Donc, avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on a et tout ce qu'on peut. Il y a aussi dans ce texte une part qui peut-être vous marque aussi, c'est la répartition inégale des talents. Le maître, il choisit d'en donner 5 de 1. On peut être surpris, pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est juste? Des fois, on a l'impression que pour être juste, il faut donner la même chose à chacun. Et ça, c'est juste. Et là, le maître, il ne fait pas ça. Hein. Il choisit de répartir selon les capacités, mais de façon inégale. Alors ça peut provoquer la jalousie. On parlait de nos attitudes. Peut-être qu'on peut être jaloux de ça. Peut-être que celui qui en avait deux, il s'est dit, ben, tiens, l'autre, il en a un peu plus. On peut envier ce que les autres ont reçu puis que nous, on n'a pas reçu. On aimerait ce que les autres ont eu. Ça peut nous amener à mépriser ce que nous, on a reçu. Et puis peut-être à l'enterrer. À rien faire. Mais Paul, il compare l'Église à un corps. Hein. Il me semble que Roland nous l'a dit ce matin, avec des membres différents qui doivent fonctionner ensemble. Et Paul dit que certains membres ont plus de gloire que d'autres. C'est-à-dire que c'est peut-être plus valorisant d'être un œil ou d'être une main que d'être un orteil ou un pied. C'est peut-être plus valorisant, c'est plus chouette. Mais si le pied, il se dit, bah, tiens, comme je ne suis pas un œil, ben, on peut mettre en valeur... Ben, tant pis, je fais rien. Ben, le corps, il est bien embêté si le pied fait rien. Donc, en fait, il faut avoir conscience de cette diversité et puis à respecter ça, respecter ce que j'ai reçu et puis comment dire, on a tendance à vouloir l'uniformité. La diversité, des fois, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas beaucoup. On a envie que tout le monde ait la même vision que nous, la même sensibilité, les mêmes dons. Parce que sinon, c'est des mauvais chrétiens. S'ils ne voient pas ce que je vois, s'ils ne sentent pas les choses comme moi. Alors, c'est humain, c'est ce désir d'uniformité, mais je pense que Dieu, il ne voit pas les choses comme ça. Hein. Lui, il voit la diversité et la richesse de la diversité. Donc, nous, on a veillé à ne pas mépriser nos dons et ceux des autres et à accepter ça. Accepter la diversité. Ces derniers temps, on a entendu plusieurs fois, attention, ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Et la comparaison, c'est vrai que c'est un peu ça, hein? C'est vouloir un peu l'uniformité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que même si le partage, au départ, il était inégal, la joie parfaite, eh bien, elle est offerte aux deux premiers serviteurs de façon pareille. Hein. Tous les deux, le maître leur dit « Bien, bon et fidèle serviteur ». Je l'ai relu dans cette version, parce que c'est celle que je lisais plus jeune, qui me parle. « Tu étais fidèle dans peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alors, on a cette perspective de la joie que le maître donne, la perspective du retour du Christ, on sait qu'il va revenir. Et ça nous met dans une perspective bonne pour le service. Hein. On n'est pas dans le service à trimer comme des gens exploités. Mais dans un service d'amour, comme on l'a dit, hein, tu aimeras ton Dieu et ton prochain. Et dans un sens de service. Alors, qu'on se laisse encourager par ça, par notre Seigneur, pour le servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, ou de nos forces, avec tout ce qu'on est, tout ce que nous sommes. Amen.